À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Bonjour, bonjour Chantal. Bonjour Sandrine à la technique.
Oui, bonjour Alain.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Essentiellement d'un voyage qu'on vient de faire avec Inis en Vallée d'Ost. Puis on va peut-être parler un petit peu de politique.
Oui, un petit peu. Enfin, mais c'est vrai, c'est vrai que le voyage dans la Vallée d'Aoste a été extraordinaire, plein d'émotions, super bien organisé.
Des rencontres en local.
Avec un emploi du temps
soutenu.
Bien rempli, soutenu, et c'était super.
Mais faisable quand même. Alors les élections, on va parler des élections en Italie. Pour une fois, on ne va pas parler d'un certain président du Conseil, on en parlera que très peu. Mais il y a eu des élections administratives, enfin, c'est-à-dire municipales en Italie, qui indirectement vont quand même ennuyer ce personnage dont on parle malheureusement trop souvent. Donc ces élections avaient lieu dans plusieurs communes d'Italie et les médias, le peuple italien aussi s'attachait à voir les résultats des grandes villes parce que elles ont aussi une valeur de symbole. Alors pour on va prendre quatre cas, c'est celui de Turin, de Bologne, de Naples et de Milan, puisque ce sont déjà des grosses villes et en plus où il y avait une incertitude quant au résultat final. Si on prend Turin, Monsieur Fassino a été élu. Alors Monsieur Fassino représentait, disons, la gauche italienne. Et il est du Parti démocrate et il a été élu au premier tour. Donc il n'y aura pas de second tour puisqu'il a été élu avec 56,66% des voix, ce qui est assez net.
Il était déjà en poste ou...
Et au niveau de la couleur politique, c'était déjà effectivement cette couleur politique. Enfin, c'est une disons que c'est une alliance. Hein, je disais Parti démocrate, mais il y avait aussi la gauche écologiste, l'Italie des valeurs, une liste civique, et puis il y avait un petit parti Torino Socialista. En face, le parti de Berlusconien, on va dire, Il Popolo della Libertà, représenté par, non par Pier Francis Coppola, mais Michele et Giuseppe Coppola, a été battu nettement puisqu'ils ont obtenu 27,30% des voix. Et là aussi, quand on dit 27,30%, c'est un pourcentage qui regroupe le Parti de la Liberté, le Peuple de la Liberté, la Ligue du Nord, la droite, l'Alleanza di Centro, et puis là aussi une liste dite civique, enfin, qui s'appelle Insieme per Torino. Donc là, les résultats et la victoire est quand même très nette. Autre victoire, c'est à Bologne. Bologne, où la gauche a gagné là, avec 50,46% des voix au premier tour, c'est-à-dire qu'elle est élue. De justesse au premier tour, mais avec un net avantage, qui veut dire que le deuxième tour aurait sans doute été probablement une formalité. Mais c'est au premier tour que donc la gauche a été élue, avec donc toujours pareil, le Parti démocratique. La liste de Niki Vendola, enfin des partisans de Niki Vendola, qui est l'homme politique qui monte en Italie en ce moment, l'Italie des valeurs, l'Italia dei valori, et puis la Federazione della Sinistra, la fédération de gauche, et les riformisti. Et en face, la droite a obtenu 30,3%. enfin, l'Alliance de droite a obtenu 30,35% des voix. Puis après, les voix sont dispatchées entre des petits partis ou de gauche.
C'est encore une victoire confortable.
Ou de gauche ou de droite. Là, donc, deux victoires confortables. Après, il y a deux villes qui étaient très suivies.
Oui, Milan.
Notamment Milan, parce que Milan, c'est le symbole.
C'est sa ville.
C'est la ville de Silvio, s'appelle-t-il.
Voilà.
Et il regarde Milan avec un intérêt particulier. Sauf que visiblement, ça a l'air mal parti pour lui à Milan, puisque Letizia Moratti, qui était ministre d'ailleurs, et maire, a obtenu 41,58%, qui est donc de son parti. Et là aussi, les 41,58% représentent l'ensemble des partis de droite qui faisaient partie de cette alliance. Contre M. Pisapia, qui lui a obtenu 48,04%, donc qui est en ballottage favorable et qui représente donc la gauche italienne de ces partis qui se sont réunis pour les municipales. Et le ballottage est favorable, mais comme tout ballottage, après, ben, c'est les discussions entre les deux tours qui vont être déterminantes. Alors par exemple, il y a l'Union du Centre, l'Unione di Centro, dont M. Palmieri, on ne sait pas trop comment vont voter les personnes qui ont voté pour lui au premier tour. Il y a aussi la fameuse liste de Beppe Grillo. Beppe Grillo, c'est un artiste italien, comédien, qui avait monté son propre mouvement un peu à la Coluche, on va dire, et qui, depuis, un petit mouvement, le mouvement des 5 étoiles, comme il l'appelle, qui a toujours un petit pourcentage de voix, mais qui peut être déterminant au deuxième tour. Bon, c'est un parti qui, a priori, pourrait voter pour le parti de gauche, mais à voir. Donc, on va dire qu'à Milan... il y a ballottage favorable pour la gauche sans...
Et le deuxième tour est quand ?
Le 27 et 28 mai, si je me souviens bien. Enfin, le week-end du 27... non, les 29 et 30 mai. Voilà, 29 et 30 mai.
Silvio va sortir son carnet de chèques, là.
Oui, mais bon... on parle beaucoup de carnet de chèques en ce moment, d'ailleurs. Et puis, la dernière ville qui était effectivement en discussion, c'était... Naples, parce que Naples aussi est symbolique. Et Naples, c'est très serré, en fait, même si le ballottage est favorable pour l'instant à la droite, M. Lettieri, mais avec 38,52%. Mais en face, il y a deux listes, alors qui au départ n'ont pas voulu faire cause commune, c'est-à-dire une liste avec M. De Magistris qui représente l'Italie des valeurs et une liste civique qui est la Fédération de la gauche et le Parti du Sud, qui ont recueilli 27,52%, mais disons que ce sont des partis plutôt à gauche. Et puis le Partito Democratico, donc le Parti démocrate gauche italienne, qui lui, démocratique, pardon, avec l'écologie de gauche, la liste, là aussi plusieurs listes civiques et les Verts, qui obtiennent 19,15%. A priori, là aussi, ces alliances-là devraient profiter à la gauche, ce qui veut dire que si le candidat de droite est actuellement en tête, c'est pas sûr qu'il conserve la tête, mais là, le ballottage est quand même un peu incertain.
C'est
aussi.
Incertain.
Milan et Naples à suivre, même si, visiblement, les partisans de M. Silvio Berlusconi, il s'appelle, je crois, sont mal en point, on va dire.
Oui.
Alors, bon, petit à petit, après le patronat italien qui, depuis au moins un an, a lâché ce grand personnage, il semblerait même que dans les gens qui ont pu voter pour lui à une époque, ils sont un petit peu moins convaincus. Voilà.
Bon.
Bien.
Nous allons attendre ces résultats avec impatience, malgré
oui,
tout.
Oui, on va attendre et puis on verra. Bon, ce sont des élections, hein. Chacun vote et puis s'exprime en âme et conscience. Alors, on va aller dans une autre région d'Italie qui est une des 5 régions à statut spécial, statut d'autonomie. puisqu'il y en a 5, c'est le Trentin-Outadige, la Sardaigne, la Sicile, le Frioul et la Vallée d'Aoste.
Oui.
Qui a un statut spécial. Et c'est là donc, où nous avons fait ce voyage, c'est pas très vieux, hein, il y a quelques jours, un voyage qui a été très riche d'enseignements, tant par les contacts que par la vie de cette région qui est assez particulière, hein, qui est la première région qu'on trouve après le tunnel du Mont-Blanc. Qui est une petite région, parce que c'est la plus petite région d'Italie. Elle a 125 000 habitants environ, avec une grosse ville, enfin une grosse ville pour la région, qui est Aoste, qui est pas en soi une très grosse ville,
non,
mais qui pour la région,
je vois
une quarantaine de milliers, donc qui fait quasi un tiers de la population de la région.
Ouais.
Il y a 74 communes. Et qui est donc marqué par l'histoire, puisque c'est une région qui, étant proche de la France, a été marquée aussi par la langue française, et qui était occupée au départ par les Salas, qui était le premier peuple.
Des Celto-Ligures.
Voilà, des Celto-Ligures qui l'occupaient. Et puis ensuite, la ville d'Aoste, notamment, a été fondée par les Romains, et par l'empereur romain Augusto. Et donc cette ville, elle est, on le disait, à côté de. Enfin, à la sortie du tunnel du Mont-Blanc, elle s'étend jusqu'au Piémont, puisque dès qu'on sort de la vallée d'Aoste vers Pont-Saint-Martin, on arrive sur le Piémont. Puis elle est délimitée par le Mont-Blanc, bien sûr, mais aussi par le Cervin. Une grande partie de son territoire est occupée aussi par le parc national du Grand Paradis, qui a été le premier parc national européen. Et puis,
européen, je
européen,
croyais que c'est uniquement
non,
italien.
Non, européen.
D'accord, ça remonte à quelle époque alors?
Et il a 1900, dans les années 20, 1922,
ah,
je
oui.
crois. Voilà, alors avec les marmottes.
Oui, il y a un très joli, d'ailleurs sur internet, il y a un site, et il y a un très joli petit film où on voit les panoramas différents et puis tous les animaux. Qui sont dans ce parc.
Voilà, et donc montagne aussi, on a parlé du Mont-Blanc, du Grand-Paradis, du Cervin et du Mont-Rose. Voilà, sinon, elle a quatre fleuves, le Lys, le Butier, Marmoré, et puis la Doire-Baltée, hein, où on était.
Oui, en fait, l'eau est très présente, elle dégringole des montagnes, elle se retrouve en bas.
Voilà.
D'ailleurs, je crois que... Au Moyen-Âge, et même dans une époque plus proche, les villages n'étaient pas dans le fond de la vallée. Ils étaient plutôt
accrochés
à mi-hauteur,
mais...
parce que le fond de la vallée était plutôt marécageuse. Et puis, ça évitait aux gens de descendre trop bas et de remonter tout le temps.
Bien sûr.
C'est une question de fatigue aussi.
Voilà. Sinon, au niveau histoire, elle faisait partie du règne de Bourgogne, la vallée d'Aoste, dans les années 900 à 1000.
Oui.
Puis après, il y a eu l'invasion de François Ier. En 1630, elle a été marquée par une peste importante. Et puis, l'histoire a continué jusqu'à l'unité... italienne en 1861, donc, puisqu'on en fête le 150e anniversaire. Et c'est là que la langue italienne a été imposée en Vallée d'Aoste. Enfin, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, par le fascisme.
Et, non, l'unité italienne, la langue italienne est venue avec la, la langue italienne est venue avec l'unité italienne. Non, le fascisme, ce qu'a fait le fascisme plus tard, c'est qu'il a voulu interdire le français et il a voulu italianiser les noms. Voilà,
oui,
surtout.
Voilà. Hein,
d'accord. Voilà. Alors nous, on a donc, puisque Chantal, tu étais présente aussi, on avait pris des contacts avec la commune de Châtillon. Et c'est là donc qu'on a fait, on a jeté nos bases, on peut dire.
Oui, on a été reçu
par la mairie de Châtillon, et on va entendre Monsieur le maire de Châtillon, qui est un jeune maire puisqu'il a 31 ans.
Oui, et dis-nous combien d'habitants il y a à Châtillon.
Alors, je crois qu'il va le dire lui-même.
Ah, d'accord.
Oui, bonjour. Alors nous sommes donc dans cette cette escapade, on peut dire, dans la vallée d'Aoste avec tout le groupe d'Inis. Et nous avons l'honneur de rencontrer plusieurs personnes. On a été accueillis merveilleusement. Et nous rencontrons aujourd'hui M. Henri Calza, qui est le maire, le jeune maire de la vallée d'Aoste. Alors moi, j'avais une première question. En Italie, à partir de quel âge on a le droit d'être maire ?
À partir des 18 ans.
On peut être maire ?
Oui.
Voilà. Alors moi, je voulais, au nom de toute notre association Inis, Italie Nord-Isère, qui a plus de 20 ans d'existence, qui essaye de faire des rapprochements entre notre région et l'Italie, et différentes régions d'Italie, je voulais vous remercier pour votre accueil, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tous les gens qui ont travaillé dur. Chantal peut en témoigner, dur pour nous. Et tout ce que l'on organise avec vous, c'est une organisation commune, mais beaucoup soutenue par vous surtout, sur la langue, sur la culture, sur beaucoup de choses. Et on tenait à vous remercier. Et puis, on espère qu'il y aura des lendemains.
Oui, la prochaine fois, on verra nous vous trouver.
Voilà.
Moi, j'espère que pour la prochaine année, on pourra de nouveau organiser
quelque chose.
Une petite rencontre comme celle-ci, de nouveau ici à Châtillon, parce qu'on a été très contents de vous avoir, et c'est une bonne expérience à répéter.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots la ville de Châtillon ?
Oui, Châtillon, c'est la seconde ville par dimension de la vallée d'Aoste, à 5000 résidents. Il a un territoire assez... qui se développe sur des... Pardon.
Non, pas de problème.
J'ai pas l'habitude
de parler souvent français. Non, pas de problème,
qui
se développe
sur un grand territoire.
Oui.
Il est une petite ville, mais en étant un pays au fond des vallées latérales, a une série de problèmes qui sont plus proches à des problèmes même des villes, parce qu'il a une réalité industrielle, il a des artisans, et un petit commerce et même une petite partie de tourisme.
Quelles industries restent à Châtillon ?
À Châtillon, il y avait une industrie qui, dans les années passées, avait un rôle très important, qui était la Tech10. Dans ce moment, l'immeuble est vide parce que la gestion précédente a eu un crack.
D'accord. Et sinon, quels sont les rapports avec la capitale, on peut dire, Aoste de la vallée ? Est-ce que vous dépendez beaucoup d'Aoste ? Ou est-ce que les communes, vous avez une liberté d'action ?
Les collectivités locales, on a...
Aoste, quand je parle d'Aoste, c'est la région.
La région, oui. Les collectivités locales ont une assez bonne liberté parce que on tous les maires des 74 communes de la vallée d'Aoste se retrouvent presque une fois chaque 15 jours pour discuter, et même des lois que la région va proposer dans la période, et ils donnent des renseignements pour les perfectionner. Il y a une collaboration très étroite avec la région, c'est la fortune d'être une petite région.
Et alors, juste en deux mots, parce que je sais que c'est un sujet qui est vaste, comment fonctionne une région à régime spécial ? Je crois que c'est surtout au niveau financier que
C'est surtout au niveau financier. La Vallée d'Aoste a eu le statut spécial parce que les Val d'Autun sont considérées par l'État italien une minorité linguistique, parce qu'ici en Vallée d'Aoste, on parlait français.
Avant.
Mais maintenant, le français est paritaire avec l'italien.
Dans l'officialisation.
Oui, mais...
pas dans les faits.
Dans la pratique, c'est un peu...
C'est plus tout à fait
C'est moins senti, parce qu'on a eu une forte immigration.
D'autres régions.
On a mélangé
les différentes régions,
et le français a eu une petite flexion. Et c'est surtout... vis-à-vis à ça, on a maintenu tout à fait une autonomie spéciale, et c'est une autonomie spéciale d'un point de vue financier, mais le cœur de l'autonomie, c'est le fait que les Val d'Autun sont considérées une région spécifique parce que son territoire est entouré par les montagnes, mm-hmm. et parce qu'on est... On a des caractéristiques qui sont bien différentes. Propre. La région est très petite, mais de Courmayeur à Cressonneil, il y a un voyage de 3h30. Mmh. Et
d'accord. C'est ça. Et en parlant de minorité, il y a même une minorité linguistique allemande, c'est ça?
Oui, à Cressonneil.
À Cressonneil. Et le patois, qui est encore beaucoup parlé.
Patois, il est presque un franco-provençal.
Voilà, et qui est un des supports de notre échange avec vous.
Et sur le plan culturel, on sent que vous faites beaucoup de choses au niveau des expositions, de la mise en valeur de votre patrimoine qui est important.
Oui. On tient beaucoup à montrer des choses qu'on a l'habitude à voir, mais vu que c'est l'habitude, on cueille plus les valeurs des choses qu'on a ici dans notre petit pays, et on cherche au même temps de valoriser les artisans, toutes les personnes qui vont faire des choses, disons, culturelles.
Alors hier on a eu l'honneur de visiter votre mairie avec vous. On vous a remercié, une salle magnifique du conseil municipal, et on nous a expliqué le nombre de gens de la majorité, de l'opposition. Et on a vu qu'entre la majorité et l'opposition, il n'y avait pas tellement de nombre de sièges différents. Non. Ce qui veut dire que le vote au niveau des municipalités dans une région autonome est à la proportionnalité des votes, où vous respectez les pourcentages, en fait.
Pas tous les communes, les pays en Valais d'Aoste ont 19 conseillers. Il y a même des communes où il y en a 14.
D'accord.
Ça dépend de la dimension et du numéro des...
Mais il y a une vraie proportionnalité.
Oui.
D'accord. Eh bien, on vous remercie.
Moi, je voudrais vous poser une question. Pardon, et sur le plan de l'enseignement, comment fonctionnez-vous par rapport à l'État italien?
Et avec l'autonomie spéciale, on a une des compétences primaires de la région Valais d'Aoste, c'est celle de gérer et légiférer pour l'instruction.
D'accord. À tous les niveaux?
À tous les niveaux. C'est différent. Par exemple, on fait... Dans les écoles, un numéro d'heure d'italien, même au numéro d'heure de français pour la parité. Mm-hmm. Il y a des vacances peuvent être un peu différentes des autres régions. Mm-hmm. Et surtout jusqu'au lycée, il y a seulement une petite taxe pour s'inscrire chaque année, mm-hmm. à l'année scolaire, mais les livres sont fournis, ils sont donnés par la région gratuitement.
Donc, ce qui veut dire que vous avez une autonomie financière, on peut dire?
Oui, c'est ça.
Autonomie au niveau de l'éducation?
Au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, mm-hmm. des lois de l'environnement, de l'urbanistique.
Ça se dit. Mais pas au niveau... Oui, oui, urbanisation. Oui, ou l'urbanisme, en fait.
L'urbanisme.
Et vous n'avez pas d'autonomie au niveau de la gestion intérieure, c'est-à-dire de tout ce qui est police
Le corps forestier, c'est de la Valais d'Aoste. D'accord. La police et la gendarmerie, c'est...
National.
National, oui, ah, ça dépend de l'État.
Ensemble, d'accord. Bien.
Bien,
encore une fois, merci.
Je vous remercie bien.
Voilà, alors vous avez entendu M. Kaltz, qui a parlé de beaucoup de choses, de sa ville, bien sûr, de Châtillon, qui a près de 5000 habitants. Et bon, il est revenu sur cette autonomie. Oui, on disait tout à l'heure, Chantal, tu me demandais quand est-ce que l'Italien avait, entre guillemets, chassé le Français. En fait, c'était au moment de l'unité italienne, Valais d'Aoste a essayé de conserver ses traditions. Puis la langue italienne est arrivée, mais tout en maintenant le français qui se perdait un petit peu, mais qui restait quand même
oui,
parlé
parce
aussi.
Que je pense qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu beaucoup d'apports, mais je pense que c'est plutôt au début du 20e, il y a eu beaucoup d'apports d'autres régions italiennes.
Ça, voilà, alors ça c'est effectivement, alors après il y a eu ce que tu disais, l'arrêt du fascisme qui lui a voulu italianiser les noms, que ce soit les noms de communes.
Mais avant cela,
ça, il y a des gens qui venaient d'autres
voilà,
régions.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors après, l'époque du fascisme a aussi provoqué de l'émigration, c'est-à-dire des gens de la Vallée d'Aoste sont partis, et notamment pour la France, puisque
oui,
c'est à la région.
Comme d'autres pour pays eux, d'Italie, comme voilà. D'autres régions
alors,
d'Italie.
En plus,
d'ailleurs.
Comme ils avaient cette connaissance linguistique, c'était encore entre guillemets plus facile, même si c'est jamais facile de partir chez soi. Et puis. Parce que, bon, sous l'époque du fascisme, là, le fascisme a tout fait pour que l'italien soit la seule langue maintenue, on va dire. Bon, visiblement, ça n'a pas été complètement réussi. Et par contre, les noms, par exemple, M. Calza, le maire, a un nom qui sonne italien et il a un prénom qui est Henri. Donc,
oui,
on a vu nous présenter
oui,
la.
Dans toutes les personnes que l'on a côtoyées,
il y a les doubles.
Beaucoup, beaucoup de gens avaient des prénoms d'origine française.
Français des noms italiens voilà, ou l'inverse voilà. Ou les deux.
Notre guide de la ville d'Aoste s'appelait Laurence, sa petite fille s'appelait Nicole.
Voilà. Enfin, Nicole, ça existe partout en italien. C'est pas seulement dans la Vallée d'Aoste. C'est pas uniquement. C'est un prénom qui existe hein, déjà.
Mais c'est d'origine française.
Oui, je pense, mais.
C'est pas italianisé.
Non.
Ah ouais,
non,
d'accord.
Non.
C'est pas Nicoletta.
Mais à Nicoletta, c'est la petite Nicole.
Ah, voilà.
Elle. Par contre, pour en revenir au nom, on avait eu l'intervention du sénateur, qui lui, au contraire de M. Kahl, c'était une personne très âgée, mais très encore vive dans son esprit, puisqu'il avait plus de 90 ans, qui s'appelle Cesare Dujani. Et on prononce vraiment à la française,
oui,
alors que
ça.
Le prénom
oui,
est
oui,
complètement
Dujani.
Italien. Mmh. Et c'est assez drôle, tous ces noms, les noms de communes sont souvent.
Le responsable de la culture aussi,
s'appelle
à Châtillon, s'appelle Daudry.
Jean-Claude, alors que son papa, dont on parlera tout à l'heure, s'appelle Pierino. Mmh. Donc tout ce mélange est assez intéressant finalement. Et puis après, donc, il a beaucoup parlé de la région à statut spécial et autonome. Bon, c'est en 1945 que la région est devenue autonome et c'est M. Federico Chabot qui a pris la
oui,
présidence.
Oui, il me semble que j'ai lu qu'il y avait eu. Ça avait été assez houleux. Pour la mise en place de l'autonomie, parce qu'il y avait des clans qui étaient plus ou moins d'accord. Et j'ai lu justement que ce monsieur Frédéric, un jour il y avait eu une émeute et monsieur Federico Chabot a failli être défenestré.
Ah, ça ne plaisante pas.
Hein. Oui. Et donc, parce qu'il y avait vraiment des partisans d'une autonomie beaucoup plus grande, parce que ce qu'on leur donnait, ce que l'État italien leur donnait, ils avaient l'impression que c'était un peu la distribution au cœur d'artichaut. Quoi. Mmh. Donc, ils voulaient quelque chose de plus franc. Et donc, ils l'ont obtenu moyennement.
Alors, c'est un peu le résumé que faisait le monsieur Dujani, là. Alors, quand ils ont obtenu cette autonomie, ce statut spécial, le statut spécial date de 1948, c'est-à-dire
oui, de 48, oui.
Tout ce qui est finance, etc. Et c'était une région qui n'était pas très riche et qui vivait d'agriculture et de troupeaux, en fait. Hein. C'était un peu pastoral, on va dire.
Oui.
Et il y avait peu d'industrie et beaucoup émigraient. Alors, comme après, ça, c'était une période d'après-guerre, beaucoup continuaient à émigrer, notamment en Suisse ou en France, toujours pareil.
Si on, pour en revenir à l'autonomie, ils ont eu beaucoup de mal à obtenir la concession de la gestion de l'eau.
Oui.
Ça a été un problème. Donc, ils ont eu un espèce de contrat qui était pour une durée de 99 ans.
Mmh.
Et au bout de ces 99 ans, ça n'a pas été renouvelé.
Mmh.
Parce qu'on était tombé dans la gestion privée de l'eau.
Mmh.
Mais depuis cette époque-là, la région a réussi à racheter presque la totalité des lieux, enfin des usines hydroélectriques. Mmh. Mais c'est un problème. D'ailleurs, si tu te souviens bien, il y a un assistant italien à Châtillon qui avait posé une question.
Oui, parce qu'il repose le problème de l'eau actuellement.
Voilà.
Mais l'eau dans toutes les régions, enfin pas qu'en Italie d'ailleurs, hein, sont devenues la gestion de l'eau pour un pays, ça devient...
Bah, c'est-à-dire que c'est intéressant, l'eau qui est dans la vallée d'Aoste, parce qu'elle est
en
hyper
moment,
abondante.
Y a, dans les Dolomites, il y a un gros problème dans la région de Belluno qui, qui appartient à la Vénétie. Mais le président de région étant originaire de Trévise, étant un gars un peu particulier, les gens de la montagne ont l'impression que l'eau sert à Venise, alors que la région n'a pas les retombées. Mmh. Et bon, c'est pas la seule raison, mais du coup, ils demandent leur attachement au Trentin, qui est une région à statut spécial aussi. Alors, pour en revenir à la vallée d'Oss, qui à l'époque de ce statut spécial, quand il a été prononcé, ils ont obtenu le bilinguisme de façon officielle, par contre. Ouais. C'est-à-dire que tous les documents devraient être en double langue, etc. etc.
L'enseignement dans les deux langues.
Et par contre, ils ont quand même des avantages, hein, quoi qu'ils en disent, parce que par exemple, au niveau finance, ils gardent 90% des impôts récupérés, ce qui est quand même pas
plus
mal.
Plus les produits du casino
de Saint-Vincent qui est à côté.
Qui est très important, il paraît.
Oui. Et puis maintenant, c'est une région qui est très développée au niveau touristique, hein, et qui a un des revenus par tête les plus importants d'Italie. Hein. Et, au niveau linguistique, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que, bah, tu l'as vu, M. Kahl, ça en est un exemple, beaucoup des interlocuteurs qu'on peut avoir savent le français. On va dire savent le français parce qu'ils l'expliquaient très bien à l'école primaire, au collège, au lycée. Il y a une quasi-parité au niveau des deux langues. Ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau du baccalauréat, enfin l'examen di maturità qui est l'équivalent, c'est très dur parce qu'il faut qu'ils aient un niveau de français élevé en fait. Et l'examen en français est très très difficile.
Et ça doit faire des heures de cours supplémentaires importantes ?
Non, ils arrivent à gérer ça en fait. Alors par contre après. Une fois ces études terminées, certains continuent pour leur travail à le parler, d'autres plus du tout. Dans la rue, ils parlent italien, hein, sauf avec des Français, on va dire. Par contre, à la maison, c'est complètement différent. C'est-à-dire que le français, maintenant, on le trouve surtout, on l'a vu d'ailleurs, hein, dans les manifestations culturelles. On le voit beaucoup encore sur les affiches. Mais à la maison, il y a des statistiques assez récentes là-dessus. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous parlez comme langue à la maison, plus de 70% disent la langue du domicile, c'est l'italien.
Après,
il y a toute une déclinaison de langues. Certains disent chez nous, non, c'est le franco-provençal, c'est le patois. On dit une vingtaine de pourcents. Après, il y a toutes les langues des régions, effectivement, d'Italie, qui sont, enfin, d'immigrés italiens, entre guillemets, enfin, des gens qui viennent d'autres régions d'Italie, le Calabrais, le Piémontais, le Vénète, le Sarde, et puis il y a cette minorité linguistique allemande aussi, le Valser, là. Et le français, comme langue de véhicule à la maison, représenterait plus qu'1%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 1% de la population qui parle français, il y en a beaucoup plus. Mais la langue à la maison, par exemple, on a vu le monsieur d'Audrey, son fils, il parle entre eux, il parle italien. Quoi.
Par contre, c'est un peu logique.
Là, on disait 16% disent le parler à la maison, mais on dit qu'il y a bien un tiers de la vallée d'Oss qui parle encore le franco-provençal. Et il y a beaucoup, la région, d'ailleurs, tient à aider toutes les manifestations en franco-provençal. Voilà, au niveau politique, c'est surtout l'Union Val-de-Taine qui remporte toujours tous les suffrages. C'est un parti qui avait été fondé peu après l'autonomie et qui, au départ, était assimilé, ce qu'on dirait, un petit peu centre-gauche, mais en fait qui évolue au fil du temps, suivant les opportunités, qui pourrait être classé ou à gauche ou à droite, mais qui est assez finalement indépendant, hein, l'Union Val-de-Taine. Voilà, on va écouter peut-être un peu de chansons quand même.
Mais oui.
Alors on va écouter un premier titre de Maura Susanna, qui est une chanteuse qu'on a eu. Vous entendiez des bruits dans l'interview autour de M. Kahl, ça parce qu'on était à l'occasion d'une soirée organisée autour du franco-provençal.
Mais elle a chanté en
chanteur. Elle a chanté en franco-provençal, elle chante en italien, elle chante en français. Et là, on va l'entendre dans un titre qui s'appelle Terra Mia, qui est le nom de son album. Qu'elle vient d'ailleurs de sortir. C'est une personne qui chante depuis une bonne trentaine d'années, voire plus, et qui est la voix de la vallée d'Ost. Alors, soit elle met ses propres textes textes, pardon, en musique, soit elle chante des auteurs ou des poètes de la Vallée d'Aoste, soit même des auteurs étrangers, puisque elle met en musique, par exemple, Boris Vian, elle chante aussi du Édith Piaf. Et là, la chanson qu'on va entendre, Terra Mia, Madre Mia, c'est une sorte d'hymne à l'écologie, et elle explique qu'elle a écrit ce texte parce que elle a été très déçue du sommet de Copenhague, où elle attendait, comme beaucoup de gens, des merveilles de tous les grands de ce monde, et puis que rien n'avait changé. Et donc elle a écrit ce texte de Terra Mia, Madre Mia, ma terre, ma mère.
Quando il sole verrà a riscaldare il tuo viso, nulla potrà più far male, perché tutto un giorno cambierà. Non morire, perché saremo in tanti con te ad aiutare la vita. Madre mia, nel tuo ventre la poesia, lascia il vento ti asciughi il dolore delle lacrime. No, non pianger più, un bambino verrà. Sarà gocce d'acqua e spighe nel palmo terra, e la voce sarà terra mia, madre mia. Cresceranno in te la speranza e il coraggio di amare di più.
Thank you.
Voilà, Maura Susanna, le chant de l'harmonie donnera de nouvelles fleurs. Nous danserons pour toi, seulement pour toi. Espérons. Voilà, alors on a fait un peu de tourisme aussi quand même, beaucoup même de tourisme. On est allé au Fort de Bar, au château de Fénis, à l'île d'Aoste qu'on a visité de façon assez complète. Donas, Fort de Bar, tu veux peut-être nous en parler, Chantal ?
Oui, je veux bien, parce que ça, d'abord, c'est un site qui m'a beaucoup impressionnée par sa situation, parce que c'est comme un verrou qui bloque la vallée d'Aoste en venant du Piémont. Donc c'est un endroit très intéressant, que les Romains d'ailleurs ont exploité déjà, comme point stratégique de défense. Et puis ensuite, un village est né, les maisons... Le village est tout en bas, comme un défilé, dans le creux. Et c'est des maisons qui datent du XIIIe au XVIe siècle. Donc la première construction après les Romains, c'était un château fort, en fait, un château de défense. Et lorsque Napoléon est arrivé en Italie, il a voulu prendre ce fort. Donc il n'y est pas arrivé. Enfin, il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Je me rappelle plus exactement les.
Oh, il y avait 40 000 soldats et 400 soldats à l'intérieur.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc je me rappelle plus comment il a réussi à vaincre cet ouvrage extraordinaire. Donc quand il a eu pris ça, cet endroit-là. Il était très en colère, donc il a fait tout raser, il a fait détruire complètement.
Alors on dit que pour passer en silence d'abord pour mieux surprendre, il avait il a fait mettre de la paille, oui. Ou du fumier pour que les roues, enfin
pour
roues,
pouvoir monter ses canons, il avait enroulé les roues des chars avec du tissu.
Soit silencieux, on va dire.
Voilà, c'est ça. Donc il y est arrivé. Il a fait ce qu'il fallait pour y arriver. Et ensuite, donc, un fort a été construit.
A été reconstruit.
Alors, ça remonte en 1830-1838. Il a été reconstruit. Il a ensuite servi de prison. Et puis, ensuite, le fort de Bar a été acquis par la région et restauré de manière admirable.
Ah, c'est une splendeur.
C'est vraiment très impressionnant. C'est étagé, c'est magnifique. Et puis, ils ont vraiment réussi à mettre en valeur ce lieu de manière extraordinaire.
Avec plusieurs salles d'exposition, il y a ce musée des Alpes qui est fabuleux.
Alors, donc, on monte tout en haut par des petits téléphériques miniatures successifs. Il y a une rampe aussi, on peut éventuellement monter à pied, il y a une rampe. Et en haut, donc, il y a le musée des Alpes, c'est un musée vraiment extraordinaire,
oui,
on pourrait passer...
Toute une journée, facilement. Parce qu'il y a 29 salles, je crois.
Ouais. Et des choses très, très intéressantes.
Et qui passent d'une région, d'un pays à l'autre des Alpes.
Qui concerne en fait la chaîne des Alpes dans son entier.
Dans son ensemble, avec la tradition, l'habitat, les fêtes, la faune, la flore.
Tout est abordé.
Il y a des éclairages magnifiques. Il y a des choses en trois dimensions, notamment ce fameux vol de... On est à la place de l'aigle qui vole au-dessus de la montagne. Mmh. C'est splendide.
Il y a tellement de documents qu'après, on a du mal. C'est un lieu où il faut retourner,
pense. Oui, absolument.
Il faut retourner, oui.
Et puis... il y a même un portrait de Déodate Dolomieux. Nous, les Nord-Isérois, on y a été sensibles quand même.
Oui, parce qu'ils abordent aussi la géologie, la formation des chaînes, de la chaîne des Alpes, les différentes formations granitiques, calcaires. Enfin, c'est hyper intéressant, hyper approfondi. Et c'est vraiment... moi, j'ai envie d'y retourner et de passer du temps dans ce musée, vraiment.
Et puis, là, il terminait aussi... quand on y allait, il venait de fermer une autre partie du fort qui était dédiée aux enfants qui apprenaient à la montagne, en fait, par des sortes de jeux, montagne en tant que connaissance, et puis, avec des
mais je pense qu'ils ont mis en place une action auprès du public scolaire qui est importante, parce que d'ailleurs, nous avons croisé beaucoup de groupes d'enfants.
Et puis,
de tous les âges, d'ailleurs.
Et puis des expositions ou permanentes ou à thème de peinture. Il y a même quelquefois la chanson aussi qui est mise en avant aussi. Comme d'ailleurs dans un autre lieu qu'on a visité, le château de Fénis, qui est lui aussi un festival de musique traditionnelle, notamment.
Oui, justement.
Un château de Fénis qui, à l'intérieur, n'est peut-être pas le plus riche des châteaux de Val d'Aoste, mais qui est complètement intact au niveau, enfin restauré, mais intact au niveau de l'architecture extérieure.
Oui, c'est-à-dire qu'il a été restauré de manière un peu trop bien, je dirais.
Oui, mais il est
un peu à la Viollet-le-Duc.
C'est intéressant.
C'est très intéressant, bien sûr.
Et en bas du château de Fénis, donc qui est plus près de Châtillon, là, alors que le fort de Barre est à la limite, presque à la limite du Piémont. Et on a visité aussi le MAV, qui est le musée de l'artisanat Val d'Autun.
Oui, alors là, aussi est une splendeur. Là, c'est vraiment une splendeur.
Où tous les outils, l'habitat. Ouais.
Et on comprend l'importance du travail du bois dans cette région qui est présent dans tous les domaines, dans tous les outils.
D'ailleurs, à Châtillon, on a eu l'occasion de voir M. Ferretti, qui est un sculpteur sur bois. Vraiment de talent.
Et puis à Donna, on a eu l'occasion aussi.
On a eu l'occasion aussi de voir un sculpteur sur bois et de redécouvrir cette.
Alors, Alain, tu dis Donnas et Jacques disait Donna.
Oui,
alors, qu'est-ce qu'il faut dire ?
Alors, il y habite, alors il doit mieux savoir que moi. Mais c'est un peu comme les noms savoyards, hein. C'est ce qu'on dit. Et alors, on va dire Donna, puisqu'il disait Donna. Et on a donc vu cette voie romaine, là, qui est impressionnante.
Oui, alors Donna, moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce village. Cette voie romaine qui est monumentale, qui a été taillée dans le roc. Ce granit hyper dur, lisse, qui est resté intact depuis le creusement de cette voie. Et c'est un village aussi assez remarquable parce qu'il est resté très, très authentique de l'époque. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus très bien l'époque, mais ça...
Le village lui-même. La voie romaine, après, bon, le village s'est construit. Le village qui a été victime...
Du XIIIe siècle,
voilà,
oui.
Voilà, et qui a été victime, il y a une dizaine d'années, un peu moins, de grosses inondations, d'ailleurs.
La Doirée,
voilà, qui a des crues
phénoménales. Voilà.
Sinon, on a visité évidemment la ville d'Aoste, mais là, il faudrait toute une émission pour parler de la ville.
Puisqu'on parle de Donna, est-ce que je peux te parler du vin de Donna ?
Non, je ne peux pas parler du
vin de Donna.
Tout à l'heure. Non, on va peut-être écouter un peu de musique. On va écouter un bref moment d'une interview de Pierino Daudry, qui est le grand spécialiste de la vallée d'Aoste au niveau des jeux traditionnels, puis on en dirait quelques moments. On va juste l'entendre parce
que c'est un spécialiste international.
C'est un personnage important et captivant.
Donc, Pierino, on va reparler de la soirée que vous nous avez, offerte de manière si prestigieuse, je dois le dire, hier au soir sur votre
exposition
sur l'histoire des jeux, sur la place du jeu. Depuis presque l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, vous semblez très érudit sur toutes ces périodes-là. Alors, je vous demanderai, pour vous, quelle est la période qui vous a le plus intéressé ou que vous avez trouvé la plus remarquable au niveau des jeux, de la place des jeux dans la société ?
Oui, la période plus remarquable, plus, je dirais, curieuse, en français, en italien, curieuse, c'est le bas Moyen Âge et l'ancien Moyen Âge et aussi la Renaissance, parce que contrairement à ce qui nous avait dit les historiens, les livres d'histoire, les livres d'école, on ne jouait pas. Aussi d'autres choses, on ne faisait rien. Il semble que dans cette période, on ne faisait qu'aller à l'église, prier.
Se battre.
Et ça s'adestrer aux armes et stop. C'est complètement faux, parce que des milliers de personnes avaient une vie normale, ils jouaient, c'est clair, ils allaient à l'église, mais à la sortie de l'église, ils jouaient. Il y avait même ceux qui jouaient durant les offices. Il avait toute une façon de vivre qu'on ne connaissait pas. Et là, malheureusement, c'est difficile. On connaît les jeux, mais on les connaît. Si il y a eu, on n'a pas les livres sur les jeux.
Voilà, il n'y a pas de détails.
Non, on n'a pas de détails. On a Rabelais qui nous a laissé une liste de 316 jeux, mais il dit rien autre chose. C'est une liste de 316 jeux dont les spécialistes ils arrivent en individuer.
Voilà, alors Pierrine, en fait, c'est une longue interview que vous pourrez retrouver sur le site d'ailleurs d'Enis, est le grand spécialiste du jeu traditionnel en Italie. Il a même monté une fédération, il est interviewé, il va prochainement, au mois de juin, il va participer à toute une journée sur le jeu en France, dans le Gers, et c'est un conférencier. Et il a eu l'occasion de nous détailler pas mal de jeux encore très en vigueur en Vallée d'Os, comme le Palais, comme le Tsan. Alors le Tsan, on est allé voir une partie de Tsan. On espère bien un jour en faire une démonstration ici, d'ailleurs. Et donc tous ces jeux-là sont encore très vivaces et sont des jeux relativement simples, hein, parce que soit le Palais, c'est un petit disque, le Tsan, il y a plusieurs ustensiles avec des morceaux de bois. Alors on lance une petite balle en buis à l'aide d'une sorte de batte comme dans le baseball, et l'adversaire doit effectivement réceptionner cette balle, soit directement comme on le fait au tennis, soit en lançant ce morceau de bois qui sert de parade. Enfin bref, tout ça pour dire que le jeu qui se jouait entre amis, qui se jouait entre différentes villages, il y a le fiolet aussi, tous ces jeux-là sont encore très vivants et très typiques de la Vallée d'Aoste, parce qu'ils n'ont pas d'équivalent en fait dans d'autres régions d'Italie, et voire même en Europe. Voilà, on voulait faire une petite parenthèse sur ce jeu. On n'a pas parlé de notre visite d'Aoste proprement dit, de la capitale, donc, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait toute une émission pour l'évoquer. Oui, mais bien, évidemment, elle est très, 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 très intéressante, oui, avec l'amphithéâtre romain, toute la partie romaine, toute la partie aussi, la cathédrale, évidemment, la collégiale, le cloître, Santo. C'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être visitée. La région de la Vallée d'Aoste, c'est aussi une région avec des produits très intéressants au niveau agricole, on va dire, puisque c'est une région de fromage, la fameuse Fontina de la Vallée d'Aoste, qui est un fromage qui s'utilise sous différentes formes, soit fondu, soit sur le pouce. Il y a le fromazzo, puisqu'il s'appelle fromazzo.
Alors, on peut peut-être donner une petite information sur la Fontina, c'est qu'ils ont l'obligation, pour avoir l'appellation contrôlée, de ne nourrir les vaches qu'avec le foin
absolument,
de la vallée.
Absolument.
Et oui, c'est oui, pourquoi oui. Ils arrosent le foin.
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'elle est, c'est la condition d'appellation, effectivement. Voilà. Sinon, ils ont le lard d'Arnade, ils ont leur propre boudin. Ils ont beaucoup de produits à base de châtaigne, à base de miel, évidemment des confitures, notamment de myrtille. Alors, dans le miel, je vous conseille le rhododendron, c'est absolument délicieux. Et puis des vins, alors on a visité la cave coopérative de Chambave, qui a un vin blanc, un muscat, mais un muscat plutôt sec. Là aussi, ils refont vivre des vieux cépages qui existent depuis. Alors, c'est une région viticole de montagne, hein, puisque les vignes montent jusqu'à 1200 mètres. Et puis, il y a le vin de Donas, qui est le vin préféré de. Alors, à Chambève, il y a aussi une vinopacite, c'est un vin de paille qui est très, très bon. Hein.
Oui, et puis il y a le fumin.
Et puis, il y a le fumin. Et puis, le vin préféré de Chantal, c'est le Donas. Ou le
non,
Donas.
Mais je peux parler quand même du fumin, puisque j'en ai acheté quelques bouteilles. J'en ai acheté quelques bouteilles.
Et depuis, elle en parle encore mieux.
Mais oui. Alors, c'est un cépage qui avait pratiquement disparu. En 1800, pourtant, alors il a été. Il y a des sources écrites qui attestent sa présence dans la vallée en 1657. Et en 1879, il occupait près de 30% des surfaces viticoles du Val d'Aoste, surtout dans la région d'Emmaville, Gressant, Jouvesan. En 1960, le cépage avait presque disparu parce qu'il était très difficile à cultiver. Il était très sensible aux variations du microclimat de la vallée, qui est vraiment un climat exceptionnel pour la vigne. Et il était très sensible aussi, comme le cornalin, à l'absence de magnésie. Donc les viticulteurs l'avaient laissé un peu tomber. En fait, c'est un prêtre, le père Constantino Charère, qui a relancé ce cépage en osant le vinifier pur dans les années 70. Et l'idée fut très controversée, mais le résultat remporta tous les suffrages. Aussitôt, le fumin a été remis en culture, et aujourd'hui, le fumin connaît un fort engouement dans la vallée d'Aoste, et il s'étend actuellement sur 17 hectares. Voilà. Sa robe est rouge rubis, très intense, aux reflets pourpres. La structure et les tanins sont excellents. Ils mettent en évidence des notes épicées et poivrées au palais, mélangées à celles des baies sauvages et des prunes vertes. Personnellement, poussé par la curiosité, j'ai rapporté quelques bouteilles.
Oui, c'est bien. C'est bien, donc je pense que Nice va en profiter, donc peut-être même Couleur FM.
Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de parler, non, je n'ai pas le temps de parler
vin de Donas.
Du vin de Donas.
Là aussi, je crois que c'est des cépages.
Oui, c'est un cépage aussi particulier, mais alors encore plus spécifique, puisqu'il est cultivé qu'à Donas.
Oui, et puis qui est à la limite, là aussi, on le disait, du Piémont.
Oui,
le alors, Piémont qui a d'excellents vins. Bon. Et je crois que tu me disais que le vin de Donas était considéré, sinon l'équivalent, du moins rappelle beaucoup le Barolo.
Voilà, on l'appelle le frère alpestre du Barolo. Voilà, le cépage, c'est le Pico Tendro, mais c'est une appellation locale du Nebbiolo.
D'accord. Voilà, alors beaucoup, beaucoup d'atouts pour cette région de Val d'Aoste, dont on remercie d'ailleurs d'autres interviews, notamment de Jacques Bessozzi, qui est un Ardéchois qui vit depuis 40 ans en Val d'Aoste et qui est le président de la commission culture, de Vittorio Pongan, d'Emilia, de Jean-Claude Daudry, qui est l'adjoint à la culture, enfin toutes ces personnes qui nous ont beaucoup aidés à monter ce voyage. Et puis si cette région vous intéresse, le INIS continue à publier ses cahiers. On a réédité le cahier Piémont, on avait édité le cahier sur Venise, sur Milan, et sur l'unité italienne, et le cahier sur la vallée d'Aoste vient de paraître. Il s'appelle Promenade dans le Val d'Aoste, son histoire, ses vallées, ses montagnes, et puis une note sur l'histoire de la Savoie et de son attachement à la France en 1860. Et donc ces cahiers qui sont l'œuvre dans la majorité des cas, dans la quasi-totalité, par De Jean, notre président, absent aujourd'hui, Jean Guichard, et donc beaucoup de aussi, donc si vous êtes intéressé par ces cahiers, vous pouvez toujours contacter INIS au 04 74 93 41 28 ou contacter Couleur FM 27 80 04 74 27 80 deux fois. Sinon, quelques petites nouvelles sur un fond musical d'un chœur de montagne
d'un chœur
d'Aoste et qui chante en franco-provençal.
C'est un chœur d'Aoste qui s'appelle Coro Penenere. Ils sont une quarantaine. Et là, il vous interprète, un chant en franco-provençal. C'est la nuit, mais en franco-provençal,
night.
C'est
night.
Noit.
Noit. Ouais, je dois pas avoir l'accent, mais c'est ça.
Voilà.
Mais tu vas peut-être nous parler d'un autre chœur, celui d'Inis. Enfin,
ah oui, la petite
chorale
Ephimera. Alors Ephimera participe aux journées consulaires, place Bellecour à Lyon. le 28. Les journées consulaires sont sur le 28 et le 29, mais nous, nous allons nous participer le 28, le samedi 28. Nous allons chanter 5 chansons en 2 fois, à 16h et à 17h. Voilà, ça se passe sous un chapiteau. Ça ne sera pas d'une acoustique extraordinaire, mais ce sera une participation sympathique.
Voilà. Notre émission se termine là pour aujourd'hui. Et puis, si vous voulez avoir d'autres informations sur cette vallée d'Aoste, hormis le cahier, sur ce voyage, vous pouvez toujours le retrouver sur le site d'Inis, www.italienorisère.com. Bonne journée, bon mois à venir, bonne soirée, bonnes futures vacances.
Et à la prochaine.
Que le soleil brille.
Écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le 4e jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.